Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, et plus exactement, c'est Henriette Walter que vous allez retrouver dans cette émission, puisque c'est elle qui anime cette série d'émissions consacrée aux langues de France, avec toute sa compétence de linguiste, puisqu'elle est professeure honoraire de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Alors, cette série de 20 émissions est établie en partenariat avec la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Il existe déjà une première émission qui s'intitule « Langue, dialecte et patois » où Henriette nous a fait comprendre la différence entre tous ces mots. Dans cette deuxième émission, Henriette, nous allons aborder les grandes divisions géolinguistiques. Alors bonjour tout d'abord.
Bonjour.
Et alors ces grandes divisions géolinguistiques, je suppose qu'on se met en tête la carte de France et on regarde où sont les langues.
Voilà, très exactement. Et ça fait allusion à un travail qui a été fait, une méthode d'enquête qui a été commencée à la fin du 19e siècle avec un voyage par Edmond Edmond. Il s'appelait Edmond Edmond, le monsieur.
Edmond de son prénom avec
et
un D.
Et Edmond avec un T pour son nom de famille.
D'accord.
Et qui avait été engagé par un grand géologue, Jules Gilliron, pour essayer de voir quels étaient les différents dialectes, puisque nous savons maintenant ce que c'est qu'un dialecte, les différents dialectes qui existaient sur le terrain de la France.
Il en a répertorié combien, alors ?
Oh, des centaines ! Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que cette méthode ? C'est la méthode de la géolinguistique, c'est la naissance de la géolinguistique, pour laquelle on fabrique finalement un atlas dont chaque page représente un mot de la langue française, ou une notion, ou un objet, ou un homme, ou n'importe quoi, une plante, etc. Et donc, ça a commencé donc à la fin du 19e et ça a été publié dès 1902. La publication s'est terminée en 1910.
C'est énorme, un atlas par page.
Oui, un mot par page. Et tout ça, ça a été fait à bicyclette par Monsieur Edmond, qui, tous les soirs, envoyait, pour que ce soit très, très nature, il envoyait son papier tous les soirs.
Pas de redite.
Pas de redite, surtout pas de réflexion. Pas
d'interprétation
après, ultérieure,
ça, oui.
Pour que ce soit véritablement du brut. Il
ne
faut pas oublier qu'on n'avait pas de magnétophone. Hein.
Oui, donc il enregistrait ça en prenant des notes.
Tout ça, c'était son oreille. Alors là, c'était le début. Et puis, cet atlas de Gilliron a été suivi par plusieurs atlas. Le grand travail du XXe siècle, avec 25 atlas linguistiques par région. Alors là, bien sûr, avec toutes les méthodes les plus modernes, avec les magnétophones, avec plus récemment, avec tout ce qu'apporte l'informatique. Autrement dit, on a eu les deux choses. Alors, comment faisait-on ? Alors, il allait dans chaque village et puis il essayait de voir, par exemple, prenons quelque chose qui est très, très connu, c'est le nom de l'abeille. Alors, l'abeille, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a plusieurs noms différents. Il y a F, il y a E, il y a avette, il y a mouche à miel, il y a abeillo, etc., etc. Et donc, on se dit, mais attention, là, on a beaucoup de sortes de mots. Et puis, comment se fait-il qu'en français, on ait dit abeille ? Alors que si on voit ce qui se passe autour de l'Île-de-France, puisque en fait, la langue française, elle s'est reformulée, disons, dans l'Île-de-France, pourquoi est-ce qu'on a abeille ? Alors que ça ne devrait pas être ça. Alors que dans les langues d'Oïle, pardon, je dis déjà quelque chose que je devrais dire un petit peu plus tard. En tout cas, dans les langues du Nord, des langues issues du latin, on a d'autres formes. Et en particulier, dans cette région du Nord, de la moitié Nord, on a des formes très, très abrégées, comme « et » pour dire « abeille ». Qu'est-ce que c'est que ce « et » ? Il vient de « apem », latin, avec une réduction extraordinaire, qui fait que ce mot était tellement petit, tellement ambigu, et il ressemblait tellement à la conjonction « et » qu'il a fallu un petit peu l'agrandir pour le reconnaître, car on ne le reconnaissait pas quand on parlait. Vous voyez bien, un mot qui est une seule syllabe et en plus avec une seule voyelle. C'est épouvantable. Il est vrai que lorsqu'on a choisi le mot abeille, on est allé le chercher dans une langue du Midi qui était abeillo. Et abeillo, c'est le mot qui existe en provençal. Et donc, on peut dire qu'en prenant cette forme plus allongée, mais qui est en fait un diminutif, on permettait de redonner de la vie à ce « et » qui n'en avait plus. voyez ? Donc, c'est un petit peu ce genre de conclusion que l'on va peut-être essayer de tirer de toutes ces cartes.
Donc, en fait, ce n'est pas la carte de France de l'Hexagone, ce sont ces atlas par mots et par langue.
Alors, il y a les différents mots à l'endroit où Edmond ou les autres dialectologues à sa suite avaient trouvé le mot. Donc, on arrive ainsi à faire des cartes avec ce qu'on appelle des isoglosses, c'est-à-dire des parties où on voit qu'on passe d'un mot à un autre avec des formes légèrement différentes. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui est sorti de là ? Bien, il est sorti des choses tout à fait passionnantes, car on a pu déterminer les grandes divisions dialectales. Ces grandes divisions dialectales, on les connaît bien déjà. On sait qu'il y a des langues d'oc dans le midi, qu'il y a des langues d'oïl dans le nord. On sait peut-être un petit peu moins qu'il y a aussi le franco-provençal entre les deux, qui est coincé au milieu du pays, dans les alentours de Genève et de Lyon.
Et non pas en Provence, comme on pourrait le croire.
Et puis, il y a d'autres langues latines, comme le catalan ou le corse, qui ne se confondent pas avec les langues d'oc du midi. Parce que le catalan ressemble un petit peu plus, disons, à plus d'affinité avec l'espagnol, les langues d'Espagne. Et d'ailleurs, le catalan se prolonge au-delà des Pyrénées, de l'autre côté. Et le Corse, eh bien, le Corse, c'est une île, comme on sait. Et c'est une île qui a été occupée par des populations venues d'Italie. Et on voit la raison pour laquelle le Corse est à classer plutôt avec les dialectes d'Italie qu'avec les dialectes de France.
Mais le Corse fera l'objet d'une émission à lui tout seul.
Et puis, alors là, on est vraiment dans le cœur des langues de France, c'est-à-dire les langues venues du latin. Et puis, sur la périphérie, il y a d'autres langues. On en a dit un mot tout à l'heure, vous en avez dit un mot. On a le basque,
l'objet de la troisième émission.
On verra ce que c'est. Et puis, à l'extrême nord-ouest, il y a donc le breton, dont on a déjà dit quelques mots et qui est une langue celtique. Et puis, au nord et à l'est, trois langues germaniques, le flamand, le francique-lorrain et l'alsacien. Alors, bien sûr, je dirai à la fin de toutes les émissions quelque chose sur les créoles, mais avant de terminer, j'aimerais peut-être rappeler quelque chose sur toutes ces langues dont on a parlé et qui sont toutes des langues indo-européennes.
Oui, elles ont quand même des points communs.
Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que l'indo-européen ? L'indo-européen, c'est une langue reconstruite. Ce n'est pas une langue qui est attestée. C'est quelque chose que l'on reconstruit. Tout à l'heure, j'ai parlé de la méthode de la géolinguistique. Là, nous avons la méthode comparative. Elle est historique, celle-là. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les mots sur le terrain, on prend les mots selon la forme qu'ils ont dans des textes. Et on compare les différents mots qui existent dans les langues actuelles. Et on les compare, et en les comparant, on essaye de remonter à la langue mère. Évidemment, toujours avec astérisque, qui permet d'indiquer que c'est un mot reconstruit et non pas un mot attesté. Alors, quels sont les différents groupes ? Il faut dire que cette famille indo-européenne est très importante. C'est peut-être la plus importante du monde. Et en Europe, bien entendu, la majorité des langues sont indo-européennes. Alors, il y a le grec, il y a le latin, nous l'avons vu, le groupe germanique, il y a le groupe celtique. Il y a le groupe slave, il y a le groupe balte et le groupe albanais. Et en les comparant, on a réussi à trouver des ressemblances et à remonter à l'origine. Avec une assurance, c'est qu'on a le latin qui nous permet d'appliquer cette méthode et de voir si, dans ce qui est attesté, puisque le latin est attesté, si on prend par exemple les langues romanes d'aujourd'hui, italien, espagnol, catalan, etc., français, hein, si on remonte et si on tombe sur quelque chose de connu, c'est-à-dire d'attesté, eh bien oui, on tombe sur quelque chose, mais ça n'est pas le latin classique, c'est le latin vulgaire, c'est-à-dire celui qui était parlé par les légions romaines quand elles sont arrivées en Gaule. Voilà.
En Europe, on peut dire que les langues indo-européennes sont majoritaires. Avec tout ce que vous avez cité, on voit que ça couvre la totalité de l'Europe.
Exactement. Bien sûr, il y a des langues non indo-européennes, dont on parlera la prochaine fois avec le basque. Mais aussi, il y a le hongrois, il y a le finnois, il y a l'estonien qui sont des langues non indo-européennes non plus.
Merci Henriette Walter pour cette deuxième émission de notre série. Nous partageons vraiment le savoir avec vous. Alors je rappelle que cette série sur les langues de France, qui comportera 20 émissions en tout, est établie en partenariat avec la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Qu'Henriette Walter a publié de nombreux ouvrages de linguistique, par exemple le très savant « La dynamique des phonèmes dans le lexique français contemporain » diffusé par Drose, mais aussi le plus accessible à nous pauvres auditeurs qui sommes intéressés par les langues, « Aventures et mésaventures des langues de France » aux éditions du Temps. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre émission.
À bientôt.
Canal Académie vous invite à consulter les autres langues régionales évoquées par Henriette Walter, professeure de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Canal Académie vous invite également à découvrir en chanson les langues régionales de France sur le site du Hall de la chanson www.lehalltoutattaché.com.